J'ai réfuté totalement ce que
tu as dit. Et c'est lui qui m'a dit au passage, je pense qu'on peut rencontrer les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter ce premier numéro des paroles aux auditeurs de cette semaine qui revient avec vous sur les crashs à répétition dans le secteur d'aviation en RDC. Le dernier en date est celui du Boeing 727 de la compagnie aérienne Ewabora survenu le vendredi 8 juillet dernier à l'aéroport de Bangoka à Kisangani en province orientale faisant près de 80 morts. Pour rappel, la RDC a connu une série de catastrophes aériennes ces dernières années. En octobre 2000, c'est à Kinshasa, 50 personnes avaient été tuées par un Antonov 26 d'une compagnie privée congolaise et s'était écrasé peu après son décollage, percutant une dizaine de maisons avant de s'enflammer à Kinshasani, un quartier populaire de la ville de Kinshasa. Le 14 avril 2008, un 209 de la compagnie Ewabora s'était écrasé près de l'aéroport de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, faisant une cinquantaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Le 25 août 2010, un avion de la compagnie s'est écrasé à Bandundouville, causant la mort de près de 20 personnes. En avril 2011, un avion de la Monusco a crashé à l'aéroport de Djili à Kinshasa, faisant 32 morts. Vendredi 27 juin 2010, un avion de Ewabora a terminé sa course dans le sable à l'aéroport de Djili, faisant plusieurs blessés. Vous, auditeurs des radios Capi, comment restez-vous face à cette situation et que proposez-vous pour prévenir ces cas d'accident? Nous recevrons dans ce studio le commandant Ildefonse Ilunga, premier pilote congolais et pilote aux lignes aériennes congolaises. Kiki Poutou est à la réalisation de cette émission mise en onde par Eric Sidiakala, Nicole Gatia, la supervise. Piro et la Mégie vous la présente, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Près de 4 crashs en une année en RDC, comment réagissez-vous et que proposez-vous pour prévenir ces cas d'accidents? Vous pouvez nous appeler pour intervenir en direct au 081-890-6315. Si vous avez accès à l'Internet, vous pouvez également réagir en nous envoyant un message électronique à l'adresse pa@radiocapu.net, mais aussi par SMS au 081-684-7307, 081-684-7307 par SMS. Je vous ai dit que nous recevons le commandant Ildefonse Ilunga dans ce studio. Bonjour, commandant.
Bonjour.
Bienvenue encore une fois dans le studio de Radio Capi pour parler du secteur de l'aviation. Bien avant d'aller plus loin, je me rappelle, nous étions avec vous dans ce studio, c'était le 14 janvier 2010, autour des crashs d'avions à RDC. Nous avions décortiqué la situation pour l'amélioration de la sécurité aérienne. Et je me rappelle que lors de cette émission, vous avez dit, prochainement, quand il fallait une émission, c'était autour de la situation qui s'est améliorée. Mais là, une année après, nous avons les 4 crashs. Comment réagissez-vous?
Bon, je ne peux que réagir de la même façon que la dernière fois que j'étais ici. Bon, mais de toute façon, il n'y a pas longtemps que je suis repassé ici dans votre studio pour déplorer le cas des choses de crash de Kisangani. Et je dois vous dire d'abord, j'avais présenté toutes mes condoléances à la famille, aux familles donc, qui ont été éprouvées pour ces drames. Je dois vous dire, franchement, j'ai entendu beaucoup de choses sur les ondes de radio, télévision, avant même d'ailleurs que l'enquête de l'accident ne soit connue, parce que jusque-là, vous avez fait la litanie de tous les crashs que nous avons connus dans notre pays, mais jusque-là, nous n'avons pas entendu
les résultats
des enquêtes. Or, ces résultats nous auraient beaucoup aider à faire des comparaisons et même à nous référer pour voir vraiment ce qui s'était vraiment passé et pour que nous puissions avoir une idée précise lorsque nous faisons des commentaires. Mais ici, je dois vous dire, bon, nous ne pouvons que nous attarder à ce que les gens racontent à tous les rumeurs, dans tous les sens. Et ce qu'on nous dit, bon, quand nous donnons nos appréciations, ça ne peut être vraiment que des hypothèses. Or, il ne faut pas que les gens croient que nous sommes ici pour absolument crucifier telle ou telle personne, non. Au contraire, ces résultats d'enquête sont vraiment capitales pour nous. Mais à première vue, j'ai entendu tout ce qui s'est dit à la radio, à la télévision, j'ai discuté un peu avec des amis, bien sûr, et qui sont un peu routiers dans ces domaines comme moi, dans le crash de Chaudes-Wabola qui s'en gagne. Si cela s'avère vrai que vraiment, d'abord, il confirme que c'était mauvais temps. Ça, oui, ça, c'est confirmé. Alors, s'il s'agit de mauvais temps, comme je l'ai répondu il y a une semaine, juste après le crash, franchement, je dois dire que je l'ai dit d'emblée que ça pouvait être une erreur humaine parce que le commandant de bord, qui est le seul maître à bord, et c'est le seul qui conduit cet avion, qui sait exactement comment il est parti de Kinshasa pour Kisangani, quelle quantité de carburant d'abord il devait avoir avec lui, et quelle météo il y avait sur la route et également à Kisangani. C'est au commandant de bord, en tout cas, d'apprécier, de voir si oui ou non le mauvais temps était-il très très dur, était-il très, disons, très respectueux pour pouvoir ne pas se poser à choses à Kisangani. Il pouvait à ce moment-là décider d'aller carrément en choses en diversion. Ça, c'était ma position à moi. Mais si admettons ce n'était pas un mauvais temps qui demandait absolument que qu'ils puissent partir, bon, qu'ils pouvaient peut-être lui demander de faire une attente au-dessus de choses à Kisangani ou choisir un espace quelconque. Ils pouvaient demander à l'autorité de contrôle, bien sûr, de laisser en attente ou un espace dégagé où ils pouvaient attendre parce que d'en haut, ils peuvent voir l'espace qui est dégagé et attendre là-bas s'ils n'avaient pas suffisamment de choses de carburant. Cela peut arriver. Et ensuite, décider, une fois que l'orage passe, parce que nous savons très bien que dans notre pays, les orages, d'habitude, les orages ne durent pas au-delà de 45 minutes. Alors, si vous avez suffisamment de carburant pour attendre au-delà de 45 minutes, vous décidez que vraiment vous allez opposer, parce que après tout, on fait l'aviation pas pour pour transporter du carburant gratuitement et puis se balader en l'air. Ce sont des compagnies commerciales qui font bien sûr de l'argent, mais l'argent ne doit pas passer avant la sécurité.
Voilà.
La sécurité vient après. Et plutôt la sécurité vient avant tout.
Ok. Mais vous avez évoqué ce manque de résultats pour les multiples enquêtes. Ce qui fait que quand on manque des résultats, on ne sait pas réfléchir pour prendre des mesures. Mais à quel niveau se bloque en ce qui concerne les résultats des enquêtes? On ramasse les bosses noires, mais bon, nous allons encore attendre, comme on a toujours attendu, il n'y en a pas. Mais à quel niveau, vous, dans le domaine du secteur aérien, à quel niveau se bloque ce manque de résultats après plusieurs, autant de crashs?
Bon, les résultats, en principe, sont récoltés au niveau de l'aéronautique civile, qui, en principe, c'est l'aéronautique civile qui régule un peu le sur l'aviation chez nous, ici. Mm-hmm. Et même au niveau de la RVA, ils peuvent aussi récolter les choses des résultats d'enquête, mais normalement, c'est la direction de l'aviation civile, qui récolte ces données des enquêtes. Mm-hmm. Et une fois qu'ils ont, admettons, les données, ils peuvent les distribuer aux compagnies aériennes parce que ça nous intéresse aussi. Mm-hmm. Tout comme à la compagnie elle-même aussi. On peut le dire, voilà, après enquête, voici ce qui s'est passé. Et c'est sur base de ces résultats d'enquête qu'on peut maintenant prendre des mesures contre, certainement, la société ou contre peut-être le pilote. Bon, enfin, c'est ça l'élément essentiel qui va démontrer que, bon, maintenant, la mesure qui a été prise, c'est suite à telle enquête qui a été menée.
Voilà. Nous allons vous garder parce qu'on va partager ensemble avec les auditeurs ces sujets et surtout dégager les pistes et les solutions, parce que ce qui nous intéresse dans cette émission, ce sont les pistes et les solutions pour améliorer les secteurs de l'aviation. Nous avons Henri qui nous appelle de Kalinga, Dieudonné est à Bounia, Jean-Claude qui sait comme ça, lui, il est pilote, en tant que pilote, il pourra nous dire ce qu'il pense, qu'il puisse être fait pour améliorer les secteurs de l'aviation en RDC.
Parole aux auditeurs.
Henri, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour,
M. Vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Hein. On a suivi la réaction quand on parle d'un crash, d'un accident qui a un tiers de mort. C'est, tout le monde s'indigne. Mais au-delà de la douleur, des inquiétudes, qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait, vous, pour que ce genre d'accident puisse être prévenu dans notre pays?
Oui, avant de dire n'importe quoi que ce soit, je voulais d'abord présenter mes condoléances vraiment aux familles des victimes.
Mmh.
Et, en tout cas, on a des larmes aux yeux lorsque on apprend de temps en temps qu'il y a toujours des avions passés par là, alors que nous avons un gouvernement qui des élections. D'ailleurs, le gouvernement qui devait mettre quelque chose en marche, il devait d'ailleurs clouer au sol. Tous les aéronefs qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales, puisque notre pays, la République démocratique du Congo, a ratifié plusieurs clauses qui ont été plusieurs clauses relatives à la sécurité. Et ils devraient normalement, mais aussi tous les aéronefs qui ne répondent pas aux normes internationales. Et chercher aussi à améliorer les aérodromes, puisqu'il y a plusieurs aéroports qui ne répondent pas aux normes internationales. Et c'est cela même qui causerait dans la suite les crashes dans notre pays. Et de faire aussi la révision au niveau du personnel, qui ne répondent pas vraiment à l'attente de la population. Et que cela vraiment, si le gouvernement pense à faire cela, ce sera vraiment une bonne chose.
Merci Henri. Vous avez évoqué trois points. La responsabilité du gouvernement en ce qui concerne l'interdiction des aéronefs qui ne répondent pas aux normes, l'amélioration des aéroports, mais aussi la formation du personnel qui travaille dans les secteurs. Merci beaucoup. À Bounia, en province orientale, Dieudonné, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Dieudonné. Au-delà de ce que Henri a dit, qu'est-ce qui peut être fait pour prévenir les accidents?
Bon, je pense que d'abord, le gouvernement pouvait mettre en œuvre la sécurité de sécuriser les passagers au Congo. Parce que je pense aujourd'hui, tous les appareils qui volent, qui circulent sur notre territoire, il n'y a pas de sécurité, on ne contrôle pas. Parce qu'il y a d'abord l'avieillissement de l'appareil, tant que les motos, les autos, les avions, il faut le gouvernement contrôle beaucoup parce qu'aujourd'hui le gouvernement persiste sur les taxes parce qu'il sait très bien qu'il va perdre des taxes pour amagasiner d'argent. Je pense que le gouvernement pouvait mettre ensemble les contrôles et pouvoir persister sur l'argent. Ça me fait mal au cœur parce que nous allons perdre beaucoup de personnes des avantages au Congo. Merci beaucoup.
Merci de donner. Vous pensez qu'il faut un contrôle technique hein, des appareils qui sont utilisés dans les secteurs aériens, qu'il faut mettre beaucoup plus l'accent sur le contrôle de ces techniques de ces appareils. Merci beaucoup. Nous revenons ici à Kinshasa. Jean-Claude, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes pilote, je crois bien. Vous êtes en exercice ou vous avez déjà abandonné le métier?
Non, je suis donc pour la précision, je suis pilote privé.
Mmh.
Et donc je vole pour mon plaisir et pour le loisir.
Mmh.
Et donc j'ai volé quasiment en Europe, donc je suis membre de l'aéroclub de Creil, c'est parmi les grands aéroclubs de France, dont j'en fais partie depuis plus de 10 ans.
Voilà, et nous dans cette émission, nous dégageons les pistes et les solutions pour prévenir les cas d'accident. On a parlé des 4 crashs dans une année, vous en tant que pilote, vous connaissez les ciels congolais, tous ces crashs, tous ces cas d'accident. Quelles sont les mesures pour vous qui doivent être prises pour qu'on ne puisse pas revenir à ces crashs? Parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, mais pourtant aussi ça continue.
Très bien. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles des victimes.
Mm-hmm.
Et moi-même, j'ai perdu une belle soeur dans cet accident. Mm-hmm. J'en ai eu deux qui sont à l'hôpital, qui venaient de Paris.
Mm-hmm.
Et aux familles du personnel navigant, et plus particulièrement au commandant Paul Mistrit, que j'ai bien connu.
Mm-hmm.
Pour moi, la seule piste, il y a une seule piste ici, que
beaucoup de Congolais ignorent, la piste de la valorisation des aéroports. Aucun aéroport congolais n'est normé pour accueillir des avions de commerciales. Il y a eu un projet il y a un an, ça s'appelle, financé par la BAD, pour mettre à niveau tous les aéroports afin d'accueillir nos avions avec beaucoup de sécurité. Et ce projet TRM, l'argent reste encore à la BAD. Pour la simple raison, nos autorités ne sont incapables de s'accorder et de pouvoir mettre en place les fonds qui sont alloués pour organiser nos aéroports. Alors pour finir, tout simplement, beaucoup de gens sont en train de fustiger le commandant et la compagnie Arbora. Je ne suis pas membre de la compagnie Arbora, mais je pense que si le ministre était serein, il aurait d'abord arrêté la RDA, parce que la RDA est le seul responsable dans cet accident. On ne peut pas accueillir un avion sans instrument de navigation, de radio-navigation. Nous n'avons pas d'AVSB. Comment voulez-vous faire circuler, faire voler les avions commerciaux les avions commerciaux sans l'ADSB. Donc l'ADSB, tout simplement, c'est la visibilité de circulation aérienne. Nous n'avons aucun équipement au milieu de l'Est de Kinshasa avec quelques folies basiques. Voyez, tout simplement. Moi, je pense que le premier responsable, c'est la RDA. Donc l'État doit mettre l'accent sur les équipements de radio-navigation.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. Vous êtes pilote privé. Vous pensez, pour vous, la première responsabilité, c'est au niveau de la RDA. L'État doit doit valoriser, hein, comme vous avez dit, les aéroports. Nous, quand même, on le voit un point de vue de la RDA dans cette émission, parce qu'elle a été pointée du doigt par le responsable de la compagnie Eoabura en ce qui concerne le crash de Kisangani. Merci beaucoup de ce point de vue. Nous avons Kika Samba qui est aussi à Bounia et nous allons revenir dans ce studio pour donner la parole à notre invité. Kassamba, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, les auditeurs de la radio Fati. Bonjour, tout le monde, d'abord, je présente mes condoléances aux familles de Trouvé, ainsi qu'aux chefs de Congolais, qui a fait confiance à vie, et je mets à présent personne.
Voilà, on vous écoute maintenant par rapport aux propositions. Oui,
le problème pour moi, tant que ma déjà seront dans les affaires, le second est comité de politique, puisque la pensée de politique, c'est comité de noblesse. Et quand on fait la politique, on fait aussi les affaires, on doit être à même temps jugé parti, et c'est difficile qu'on puisse partir sur certains cas, tel que le cas actuel. Puisque, voici, c'était un certain moment, quand il y a toujours des publics, de tendre à l'enfer, et tous les gens, la politique, c'était mis en affaire, c'est ainsi qu'ils sont entrés dans les compagnies aériennes, pour voir ce que de passer par là. C'est pourquoi vous voyez actuellement que des pays qu'on puisse statuer sur les avions, beaucoup d'avions sont des avions destinés déjà au milieu. Ce sont des avions qui sont très âgés et qui devraient être normalement de création. Comme beaucoup de monsieur, les gens vont ramasser ça et viennent en faire des sorties volantes au Congo.
Voilà, merci Kassamba. Gabriel, vous gardez la ligne, vous êtes à Kalima. On va revenir à vous. Kassamba dit ceci, il est difficile dans ces conditions. Et les dirigeants politiques sont jugés partis parce que beaucoup se sont transformés en hommes d'affaires et ils sont actionnaires dans des compagnies privées. Alors il sera difficile pour eux de pouvoir juger comme il faut et prendre des mesures. Merci beaucoup pour ce point de vue. Appelez-nous au 081-890-6315.
C'est parce que Radio Capuine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapuine.net.
Voilà, nous revenons à vous, commandant Idelfonso Ilunga. Nous avons écouté les uns et les autres. Je me dis, il y a trois responsabilités qui se dégagent. Peut-être que vous allez nous expliquer à quel niveau chacun intervient. La responsabilité de l'État, en quoi consiste l'État dans ce secteur, en quoi consiste le travail de la RVA dans ce secteur, et aussi la responsabilité des compagnies aériennes. Je crois que je peux bien regrouper ce que les auditeurs ont dit, c'est l'État, ce sont les compagnies et la RVA. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ce qu'ils viennent de dire?
Oui, j'ai bien écouté tout ce que les uns et les autres ont dit. Ils ont parlé un peu des suspensions, du contrôle, et puis de l'état des pistes, tout ça. Bon. Dans ce pays, moi, ça fait 50 ans que je suis chez LAC, et j'ai commencé par voler sur des petits avions, là où il n'y avait pas beaucoup de choses d'aide à la navigation ici, même des pistes convenables, mais au moins, hein, on pouvait vraiment faire de l'aviation même au picomètre, si je peux dire. Jusqu'au moment où, quand même, on a commencé à voir ce pays évoluer d'une façon sécuritaire, que ce soit sur le plan RVA, que ce soit au gouvernement, hein, tout comme dans la compagnie aérienne. Mais si nous avions évolué ainsi jusqu'en 1997, d'une façon sécuritaire dans ce pays, c'est parce que l'homme qui était là, cet homme qu'on mettait dans l'aviation, était un homme formé. Mmh. Cet homme qui était formé, cet homme commençait à attraper de l'expérience. Et cet homme regardait de très près tous les problèmes qui concernaient l'aviation. Que ce soit dans les chargements, que ce soit dans le transport de carburant, que ce soit dans les contrôles sur des avions, que ce soit même sur des aides de navigation qu'on devait placer. On a commencé à améliorer les pistes ici. On a amélioré d'ailleurs les aides de navigation. Mais à un moment donné, c'est comme s'il y a eu un laissez-passer, je dois dire, à partir du moment où il y a eu la libéralisation. Parce que du temps des Air Congo, Air Zaïre, tout allait très bien. Et même Air Congo, qui pouvait en principe, qui était la seule compagnie maîtresse, pouvait connaître beaucoup d'accidents. Mais comme par hasard, Air Congo n'a presque pas connu d'accidents. Pourquoi? Parce que d'abord, il comptait sur un personnel compétent, même s'il était dans la migration, ne fonctionnait pas, mais eux, ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Ils prenaient les dispositions qu'il s'en faut. Et le gouvernement aussi était regardant sur tout ce que nous faisions. Hein, ils venaient même dans les compagnies aériennes pour regarder si ou non on répondait aux normes et pratiques des choses, des recommandations de l'OACI. Mm-hmm. Mais dès qu'il y a eu la libéralisation, c'est-à-dire les avions commençaient à venir, je crois que plutôt l'accent était donné à l'argent facile. Même les contrôleurs au niveau des choses de l'aviation civile, vous voyez, ce n'était pas avec 25 000 ou avec 55 000 hein, que ces personnels pouvaient faire du travail convenable. Il y avait les problèmes médicales pour leur famille, il y avait les écoles, il y avait les transports. Mais finalement, on avait commencé à voir les agents qui étaient pas du tout, disons, riches, je peux dire, on commençait à les voir avec des moyens de transport luxueux. On commençait à se poser d'où pouvait venir ce moyen. Et on a fini par comprendre que c'était raciste quelque part et qui se passait. D'où
directement, il y a eu un laisser-aller dans le contrôle.
Il y a eu un laisser-contrôle dans ce contrôle, y compris au niveau des choses de la RVA, que je ne vais pas incriminer totalement, parce que la RVA, tant bien que mal, elle faisait son travail, mais la RVA ne peut pas tout inventer, il ne peut pas tout faire s'il n'a pas les moyens. Mm-hmm. Parce qu'on dit, vous me donnez les moyens et moi je vous donne le travail qu'il faut. Or, il commençait à manquer un peu de moyens, mais n'empêche que RVA était fort aidé par l'OACI. Mm-hmm. Hein, l'OACI nous a beaucoup aidé, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'équipement, mais c'est le gouvernement qui en principe devait toujours répondre à tout ce que la RVA demandait. Bon, les compagnies aériennes, notamment, nous, c'est là que nous commençons à nous plaindre de beaucoup de choses. Mm-hmm. Hein. Mais pour que cela puisse suivre, il fallait absolument mettre le moyen, il fallait le paquet, il fallait l'argent. Hein. Or, cet argent ne venait pas, automatiquement, les gens allaient chercher de l'argent d'une autre façon. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu, même si vous voyez par exemple, l'RVA par exemple qui devait interdire que les avions n'arrivent pas à surcharger, mais on laissait des avions surchargés. Mm-hmm. Et ces avions surchargés, ben, c'est tout le monde qui en faisait son commerce, que ce soit même les navigants, que ce soit même d'ailleurs les choses, les compagnies elles-mêmes, même les agents de l'RVA, tout le monde commençait à faire du commerce sur le dos des avions. Donc en oubliant que la sécurité était la pièce maîtresse.
Mm-hmm.
Et quand seulement l'avion commence à tomber, vous avez vu d'ailleurs les Antonov qui arrivaient ici, qui pleuvaient comme vraiment des maïs sur un champ, mais c'est quand il a commencé à avoir maintenant des accidents que les gens commençaient à se poser la question, comment ça se fait qu'il y a des accidents? Or les accidents, ce sont des événements qui arrivent, mais il faut remonter en amont pour savoir pourquoi ces accidents sont arrivés.
Ils sont arrivés, oui.
Et lorsqu'on remonte en amont, on voit très bien que quelque part, il y avait quelqu'un qui négligeait. Qui négligeait l'homme? L'homme à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la compagnie aérienne, que ce soit au niveau de l'aérien, que ce soit au niveau du contrôle de l'AAC.
Et parce qu'il y a un auditeur qui a aussi évoqué l'homme politique, même qui doit définir tous ses moyens, qui doit mettre les moyens à la disposition, il y a aussi cette responsabilité.
Ah oui, c'est tout le monde. Regardez aujourd'hui s'il faut maintenant suspendre une compagnie aérienne. Nous retirer un permis d'exploitation. C'est la toute première fois que nous l'entendons, qu'on arrête, qu'on suspend un permis d'exploitation d'une compagnie aérienne.
Mm-hmm.
Mais avant, pourquoi ça n'existait pas? Ça veut dire que le mécanisme pour faire cela ne pouvait pas s'exister.
Mm-hmm.
Alors que c'était un problème qui existe partout au monde. Dès qu'admettons il y a un crash quelconque, mais l'organisme chargé justement d'abord de contrôler, hein, a dû contrôler, ou bien a dû remarquer, a dû prévenir, attention, si vous continuez de cette façon, le jour où vous allez connaître un crash, on va vous arrêter, on va vous arrêter le permis d'exploitation. Jusque là, le permis d'exploitation, c'était un permis bien sûr qu'on recevait, et si on fait un crash, bon, on donnait peut-être quelque chose, et le lendemain, vous voyez le sol de la compagnie en l'air, hein, tout en laissant peut-être 50 ou 60 personnes en chose au sol. Aujourd'hui, c'est parce que le nombre est quand même assez important. Mmh. On dit peut-être 74, mais ça pouvait, je suis certain qu'ils ont arrivé à 1000. J'ai vu des images même sur Internet. C'était tellement hérissant, mais c'était plus hérissant que ça, parce que moi, j'ai vu sur un petit avion, c'est 4 personnes qui étaient dedans, mais complètement broyées, calcinées. Mmh. Hein, ça pouvait déjà nous interpeller à ce moment-là pour dire comment cela est arrivé. Cela est arrivé parce qu'on n'a pas pu prendre des dispositions en amont. Or, ces dispositions en amont, c'est l'homme qui doit les prendre. Au Congo, le problème qui se pose, c'est le problème de l'homme. L'homme a laissé passer l'argent avant la sécurité.
Voilà. Ça pouvait être même la conclusion si on était à la fin de l'émission, mais nous continuons parce qu'on a encore 30 minutes avec nous. Gabriel, vous êtes à Calimont. Alexis est ici à Kinshasa, 081-890-75. C'est le numéro d'appel pour intervenir dans cette émission, mais aussi par internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Ensemble, nous dégageons les pistes des solutions pour, si on peut dire, prévenir ou soit mettre fin à ces multiples crashs que connaît la RDC dans le secteur de l'aviation. Nous avons aussi quelque chose qui nous appelle délicatie. Vous allez intervenir tout juste après.
Chaque jour, la fréquence de la PMI au Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50. Hors de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Et dans une émission spéciale consacrée à la gestion des provinces, le Maghrébi, nous serons en province orientale pour l'émission de mercredi passé qui était décalée. Quel bilan faites-vous et de la gestion de vos gestions provinciales? Prenez déjà rendez-vous le mercredi à 10h30 avec les institutions de la province orientale. On se retrouve, ça sera le 20 juillet, mercredi, émission spéciale consacrée à la province orientale. Nous allons à Kalima. Gabriel, vous êtes en ligne, bonjour. Gabriel, vous êtes en ligne, bonjour. Gabriel, si vous pouvez arrêter votre poste de récepteur, cela pouvait nous permettre de mieux communiquer, mais malheureusement, nous l'avons perdu, Gabriel, qui nous écoutait à travers son poste de récepteur, ce qui a provoqué un petit retour sur les antennes. Nous rentrons ici à Kinshasa. Alexis, bonjour. Alexis, bonjour. Voilà. Alexis, de Kinshasa est un peu distrait. Nous allons à l'ICASI. C'est Chesco qui est à l'ICASI, hein?
Oui, c'est
Chesco. Voilà, Chesco, on vous écoute. Oui, Chesco, vous avez un problème avec votre. Vous avez un retour sur les antennes. Si vous pouvez arrêter votre poste récepteur et suivre l'émission directement à travers votre téléphone portable, on peut mieux communiquer. Ça peut aller comme ça. On vous écoute.
Ok, je sais que c'est pas un peu de Ok, je vois une nécessité parce que les, com- compagnies, l'État intégration congolais. Sont réfugiés sur le plan international. Il faut se poser la question pourquoi les avions sont réfugiés sur le plan international. Quand ce sont des avions qui ne répondent pas aux normes d'aviation, mais nos gouvernements, nos ministres, font semblant tout ça. C'est pourquoi j'ai fait le CMS que j'ai envoyé, soit des avions, non. Ce sont des avions réfugiés sur le plan international. On se pose la question pourquoi on a donné ces avions et des points de validité ici au Congo. Tout le monde est au courant que ce sont des avions qui sont vraiment fatigués, tout ça, mais on se pose la question pourquoi on laisse ces avions en train de défendre, on ne sait pas pourquoi.
Voilà, oui, à Tchesko Delicacy, c'est tenté de se poser la question, mais pourquoi ces compagnies aériennes qui sont interdites sur les vols européens, sont-ils tolérés en RDC, ces appareils, pourquoi survolent-ils l'espace aérien congolais? Merci beaucoup, Tchesko Delicacy. Est-ce que Alexis, maintenant, ça va? Alexis, vous êtes en ligne? Voilà, Alexis n'est pas encore en ligne. Plutôt, on revient à vous, commandant Ildefonso Ilunga. Et malheureusement, quand on regarde la situation telle qu'elle se présente, on dirait qu'on reste tous dans cette spéculation autour de à qui revient la responsabilité. Et malheureusement, cela dure depuis longtemps. Mais qui doit déclencher en principe le mécanisme pour que la situation s'améliore? À quel niveau on doit déclencher le mécanisme? Parce que nous risquons de rester dans cette spéculation, c'est la RVA, non, ce sont les compagnies, non, c'est les gouvernements, mais enfin, on va revenir encore l'année prochaine et puis on risque de finir par revenir plusieurs fois la décennie qui doit déclencher quelque part le mécanisme pour que les choses commencent à marcher, qu'on améliore quand même le secteur.
Bon, pour moi, c'est d'abord, si on dit c'est le ministère des Transports et des Communications, vous voyez, le ministère des Transports et des Communications, bon, c'est un ministère méga, il y a beaucoup de transports là-dedans.
Mm-hmm.
Mais, dans le domaine de l'aviation civile a été confiée à un organisme qui s'appelle l'Aéronautique, à l'autorité de l'aviation civile. C'est elle. Il n'y a pas d'eux, c'est elle. C'est elle qui, en principe, doit, qui est, disons, qui est le conseiller du ministre.
Mm-hmm. Hein?
Donc, c'est elle qui peut, à tout moment, dire exactement ce qui se passe dans notre domaine. Tout comme je l'ai dit ici il y a un jour, on n'a jamais fait l'état des lieux de l'aviation civile ici au Congo. Il faut qu'il y ait cet état des lieux, qu'on voit un peu ce qui se passe dans les transports, donc parmi les compagnies aériennes, qu'on voit ce qui se passe à l'RVA, et qu'on voit aussi ce qui se passe dans les rapports autorité de l'aviation civile avec les compagnies
aériennes.
En ce moment-là, on pourrait dégager. Hein, c'est vraiment des lacunes, telles que j'ai entendu le pilote qui vole sur le petit avion là qu'il a dit. Hein, ce qu'il a dit est tout à fait exact. Tout comme nous pouvons dire, c'est vrai, il manque beaucoup de choses à l'RBA. Mais il faut qu'il y ait un état des lieux et nous puissions savoir pourquoi cela manque.
Mm-hmm.
Hier, ça existait. Et pourquoi tout d'un coup, cette aviation qui, en principe, devait toujours connaître un essor favorable, mais tout d'un coup, comme ça, s'arrête. Pourquoi l'autorité de l'aviation civile, peut-être, ne se comprend pas très bien avec les compagnies aériennes sur des documents, par exemple, qu'il faut avoir ou pas, sur des avions, admettons, qu'on fait entrer dans notre pays, comme on le dit tout le temps. C'est vrai, on ne peut pas amener des avions cercueils dans ce pays. Il y a quand même des règles. Mais ces règles, c'est au niveau de l'aviation civile, c'est au niveau de l'autorité de l'aviation civile. Les pistes, même de toute façon, qui ne sont pas en état, même les aides de navigation qui ne répondent pas, c'est au niveau des inspecteurs sur la route civile qui peuvent améliorer cela avec les inspecteurs de la RVA.
Mm-hmm.
Si même au niveau des choses de compagnie aérienne, le personnel n'est pas à jour, n'est pas formé, il faut voir comment ils sont formés, comment ils sont recyclés. Est-ce que les manuels sont à jour? Est-ce que les manuels existent? Ils sont nouveaux, ils sont vieux? Il y a des fois même, d'ailleurs, on utilise des manuels de 1960. Aujourd'hui, nous sommes en 2011. C'est pas normal. Alors, tout cela, il faut quand même qu'il y ait un état des lieux, de façon à ce qu'on puisse dire. Maintenant, si nous voulons dire que ça change, c'est après l'état des lieux.
Voilà.
En même temps, comme je ne fais que répéter tout le temps, il faut l'homme. L'homme à tous les niveaux. Par exemple, dans les compagnies aériennes, dans certaines compagnies aériennes, il faut que des personnes qui s'occupent justement de l'aviation soient des gens du métier, qui ont déjà eu au moins une grande expérience. parce qu'ils vont comprendre ce qu'ils font. Mm-hmm. Hein, même tout ce qui va se passer dans leur compagnie, ils peuvent appréhender ça très très facilement. Sinon, si, admettons, il faut commencer à expliquer à un dirigeant d'une compagnie aérienne qu'un avion doit voler avec autant de carburant parce que c'est nécessaire, et pour lui, il trouve que ce carburant, c'est trop, hein,
et là, il y a un problème. Là, il y a un problème.
Voyez-vous. Ah non, écoutez, parce que je dois avoir, nous devons avoir tel manuel, hein, ou telle carte. Il ne comprend pas, parce que ça coûte cher. Hein. Il n'ose pas débourser ce qu'il faut débourser pour sécuriser, justement. Et il y a un problème. Ou il faut acheter, admettons, telle pièce, pièce de rechange, du point de vue technique. Hein, et il ne peut pas sortir l'argent. Il y a un problème. C'est vrai, là. En aviation civile, hein, je dois dire, en général, elle coûte cher.
Mm-hmm.
Et si on veut faire de l'aviation civile, il faut de l'argent.
Voilà. Gabriel, maintenant, sur les antennes, Alexis, et là, il sait qu'on fait ça, Gabriel Akalima, vous avez parlé de l'homme, et moi, j'écoutais à propos de Kassamba de Bouniam qui dit que l'homme dirigeant congolais, il est jugé parti. Cela veut dire pour cet auditeur, aussi longtemps que l'homme, revenons à l'homme politique, parce qu'il s'agit de la politique d'abord qui est définie, aussi longtemps que l'homme politique est jugé parti, cela veut dire il est dans les affaires, il se retrouve dans les compagnies, il sera difficile que cet homme politique puisse regarder autrement.
Que cet homme politique reste en politique, hein, ça je vais demander de rester en politique, mais lorsque il veut absolument contrôler le secteur de l'aviation civile, hein, il faut qu'il sache qu'il doit y mettre quelqu'un qui connaît l'aviation civile. Hein, c'est une personne qui doit répondre aux normes de sécurité de l'aviation civile. Mm-hmm. Qu'il soit un ami ou frère ou sœur, mais cette personne qui met là-bas, il doit dans sa tête se dire, moi peut-être je ne connais rien, je ne connais pas ce domaine-là, mais la personne que j'envoie là est une personne qui maîtrise. C'est cette personne-là qui ne va pas m'amener mon avion ou bien m'accompagner à la catastrophe, hein, à connaître des choses de catastrophe comme nous venons de vivre avec Sangani. Hein, voyez-vous, si admettons, moi j'avais mis, admettons, un responsable dans cette compagnie qui vient de connaître des crashs. Mais j'en serais responsable,
voilà.
Hein, je ne veux pas seulement dire que non, c'est la compagnie qui a fait le crash, c'est celui que j'ai mis là-bas. Non, c'est aussi moi, l'homme politique, qui a accepté de mettre une telle personne à cet endroit-là. Donc il faut qu'on fasse. C'est pour ça que je parle de l'homme à tous les niveaux.
Voilà. Alexis, Gabriel, Honoré qui est à Kisangani, gardez la ligne, vous avez la parole pour commenter avec nous ce sujet autour de l'amélioration de la sécurité aérienne en RDC.
Parole aux auditeurs.
Gabriel, ça va maintenant votre ligne d'Italie au Maniema. Bonjour Gabriel.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, je salue aussi l'invité ici, Gabriel Bétibé-Kalima. Ce que je viens de dire en premier lieu, les condoléances les plus venues ainsi que la famille et les pauvres. Ce que je viens de constater, vu que je suis là, c'est la force, comme d'abord au pilote. Selon le témoignage, il a l'excès de tonnage. Or, ce sont ceux qui savent que notre avion est de telle tonne. Il fallait avant de voler regarder si le carburant, si c'est normal, lui, mais aussi en deuxième volet. Mais les atmosphères aussi n'est pas bonne. Il fallait rester pour voler demain ou bien regarder si l'atmosphère va s'améliorer. Tout cela, d'abord, ce sont les pilotes qui vont regarder ce soir.
Voilà, merci Gabriel. Vous pensez qu'il faudrait que la responsabilité revienne à ceux qui au pilote pour savoir prendre la décision en fonction du temps, en fonction des conditions de navigation. Merci beaucoup. Vous êtes à Kalima dans le Maniema. Nous rentrons ici à Kinshasa. Alexis, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les uns et les autres. On dégage les pistes de solutions pour prévenir ces cas d'accidents de circulation aérienne. On vous écoute, Alexis.
Oui. Je procède par l'hypothèse. Je me dis, d'abord, aucun pilote ne peut accepter de monter dans l'avion pour aller mourir. En tout cas, il a reçu une formation, c'est un responsable, il travaille, je ne pense pas qu'un pilote peut monter dans l'avion et aller mourir. Avec des passagers. Donc, s'ils sont morts, il y a eu quelque chose. J'étais à Kisangani quand il y a eu accident, et quand les enquêtes ont commencé le jour suivant, on a arrêté les gens de la RVA de la tour de contrôle. Parce que, semble-t-il, la bande de communication entre le pilote et la RVA est introuvable. Ça, c'est une chose. Déjà, la piste est brouillée pour qu'on connaisse les véritables causes. Je me dis, si un avion vole, donc on a permis à cet avion de voler, on a contrôlé tout et on a dit que ça peut voler. Donc, si accident, on ne peut plus parler de la vétusté des appareils, des pilotes, des sociétés, tout ça, parce que l'État doit contrôler
c'est le savoir contrôlé. Je reviens sur le crash de Goma. Vous voyez, l'annexe 14 de la Convention de Varsovie dit que la Saint-Christ, il faut compter 340 mètres. Mais vous êtes à 100 mètres, 110 mètres, c'est le marché. Quand il y a eu crash, on a reconstruit le marché dans moins de 3 mois, mais on n'a pas reconstruit l'aéroport. Donc, le marché reste. Le jour où un autre avion va rater le décollage, il est dans le marché. Et l'État ne fait rien. L'État ne dit rien. Donc, l'État n'avait pas dégagé les pistes de solution pour le crash de Goma. Parce qu'on a reconstruit le marché, on n'a pas rallongé la piste.
La piste.
On n'a pas laissé la zone de tampon de fin de piste de 340 mètres. Parce que, monsieur, quand il y a l'argent rate, entre encore dans le marché, tue encore les gens. Donc, moi, je trouve que la responsabilité incombe à l'État. La preuve, c'est que, ils ont ouvert l'enquête, ils ne vont pas nous donner les résultats, parce qu'ils ont constaté que c'est soit les matériels de la RVA vétuste, soit la tour de contrôle n'a pas bien guidé l'avion, soit on s'est demandé d'atterrir d'un côté en sens opposé du vent, et vous verrez que quand ils vont dégager toutes ces causes-là, ils ne vont pas publier, parce que l'homme politique ne peut pas publier un rapport où lui-même est responsable. Et on va trouver des boucs émissaires, ce sont des compagnies, ce sont ceci, ce sont cela, il y a accident. Est-ce qu'on est allé voir les compagnies qui volent pour contrôler? On ne sait pas. Si demain nous apprenons, nous allons encore nous mettre des compagnies, des vieux avions, mais les vieux avions-là, nous les montons chaque jour. Nous les montons chaque jour. Moi, je trouve que l'État ne fait pas son travail. Nous payons des IDEF, des GOPAS, mais aucun aéroport n'a été aménagé. Les tours de contrôle ne sont pas aménagées. Les travailleurs qui travaillent à la tour de contrôle ne sont pas envoyés en Europe pour la mise à niveau. Donc,
oui.
ils n'ont pas la formation requise. La météo, nous sommes dans un pays où il pleut chaque année. S'il ne pleut pas à Kinshasa, il pleut peut-être au Katanga, il pleut peut-être à Kisangani. Et tout ça, on doit maîtriser. Au départ d'ici, on doit dire déjà qu'il sera mauvais temps, ça sera où ce fut pendant autant de temps. Et cela n'a pas été fait. Même au départ d'ici, qu'est-ce qu'on a dit? La feuille de route, vous allez à Goma, à Kisangani, à Goma, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a là-bas comme ça? Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Moi, je trouve que la responsabilité incombe à l'État.
Voilà.
Même dans l'hypothèse où l'avion est défectueux, c'est l'État parce qu'il ne pouvait pas le faire voler.
Voilà, merci beaucoup, Alexis. Hein, vous avez conclu en disant tout revient à l'État. Cela veut dire que l'État doit agir en amont. Si on dit aujourd'hui qu'il y a des vieux avions qui survolent l'espace aérien congolais, c'est que quelque part, ces avions ont été autorisés. Et cela veut dire que l'homme politique, parce qu'il doit décider de qui doit faire quoi, et a la responsabilité, comme l'a dit notre invité. Merci beaucoup, Alexis. De Kinshasa, nous allons à Kisangani. Honoré, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kisangani, là même, où les crashs a eu lieu, et l'information, notre émission a démarré par ces crashs qui a eu lieu à Kisangani, et maintenant nous dégageons les pistes des solutions pour éviter qu'il y ait des choses comme ça, n'arrive que vous puissiez les vivre. On vous écoute, Honoré.
Bonjour, je présente d'abord mes condoléances à la famille frappée de guerre. Et je salue l'acte que le chef de l'État a fait vis-à-vis aux victimes de crash, Marquis. Pour cela, je vois que les Congolais n'ont pas l'idée de construire les pays. Parce que si les Congolais avaient l'amour de ces pays, ils ne pouvaient pas faire ce qui s'est passé à Kisangani. Comment fait-il un aéroport comme Bangoka? C'est un aéroport international. Nous avions des avions qui viennent en Europe pour descendre à Bangoka. Mais comment fait-il malgré la pluie? Oh, si c'est la pluie qui a fait quoi, si c'est comment, je ne sais pas. L'avion s'est écrasé. Ce n'est pas tout. La piste, comment je peux dire, voilà, les images, les éclairages de l'aéroport. Et s'il n'y avait pas du courant, on ne peut pas appeler les Chinois en Europe parce que nous signons des contrats. Vous pouvez appeler les Blancs pour aménager nos aéroports. La dernière fois, j'ai attendu le chef de l'État à signer des accords avec des pays, mais qu'est-ce qui a fait pour aménager nos aéroports?
Voilà.
Nous continuons à pleurer ces dommages. Parce que nous manquons quoi, on ne sait pas. On a tout dans ces pays.
Voilà, merci. Merci, Honoré. On a suivi votre souci. Vous pensez qu'il faudrait l'aménagement des aéroports. D'ailleurs, notre invité, c'est le pilote Jean-Claude, avait évoqué le dossier du projet EBAD avec la RVA pour la modernisation des aéroports. Malheureusement, la RVA, je sais qu'on intervient dans cette émission, mais jusqu'alors, on a des problèmes pour les joindre. Il pourrait nous donner des explications, un peu plus d'explications là-dessus. Merci quand même, Honoré. Il faudrait vraiment la volonté pour l'aménagement des aéroports et l'amélioration. Merci beaucoup. Nous allons à Lubumbashi. C'est Shaoli qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. On tend déjà vers la fin de l'émission. Nous dégageons les pistes de solutions par rapport à la prévention de catastrophes aériennes. On vous écoute.
Oui, moi, je voulais aborder dans ce sens. Je me posais une question. Où est partie la ligne aérienne congolaise, la société nationale congolaise?
On devait y arriver.
Parce que cette société-là, avec le temps, pendant un temps, nous avions tous compris que c'était une société qui fonctionnait très bien. Parce qu'avec cette ligne-là, nous n'avions pas eu de crash pareil. Si on peut rentrer un peu loin, vers les années 90, les années 80, quand il y avait la Air Zaïre, cette société-là, est-ce qu'on a connu une histoire pareille? Ces sociétés privées que vous nous amenez ici, nous amènent des sociétés privées qui nous amènent des avions, je ne sais pas, ni déjà dans des hangars en Europe, on nous amène ça. Et même la RVA n'arrive même pas à s'imposer parce que dans ces sociétés, il y a les implications des autorités de ces pays, les gens qui prennent des décisions dans ces pays. Pourquoi pas nous puissions avoir des histoires pareilles? Nous demanderons au gouvernement, aux autorités, les gens qui prennent des décisions, de regarder, de voir la vie, de considérer la vie humaine, parce que certainement, je ne sais pas s'ils sont dans quel sens ils voient des choses comment, pour que laisser passer des pareils appareils ici, dans ces pays, voler dans des états où je ne sais quoi, ils laissent passer ça. Nous avons failli perdre toute une grande équipe. Si le monsieur le gouverneur n'avait pas décidé de ne pas faire monter plus une équipe sur cet avion-là. Et si c'était le cas, quel genre de décision on aurait encore eu à prendre devant de pareilles histoires? Cessez d'intervenir, s'il vous plaît, nous vous adressons, nous vous demandons, nous vous prions d'intervenir à des décisions par rapport à ces sociétés privées qui viennent s'installer au pays pour leurs avions qui ne permettent pas que les Congolais voyagent dans de bons états. Il n'y a pas longtemps, on a essayé d'interdire les vols des avions Ewabora vers l'Europe parce que l'Europe avait jugé que la Ewabora n'avait pas des avions qui répondaient aux normes. Mais pourquoi ne voyez-vous pas ça? Nous condamnons les aéroports. Les aéroports, moi je viens, j'arrive d'ailleurs pour dire ceci. Ces aéroports datent de très longtemps. Et le gouvernement, je pense que vous recevez de l'argent. Il n'y a pas longtemps, chaque Congolais, avant de quitter la province là où il est, il vous laisse un $10, je ne sais de quoi. Que faites-vous de ces $10 que le Congolais laisse aux aéroports pour voyager? L'aéroport de Kisangani ne répond pas aux normes. Mais non, vous allez condamner qui? Le pilote, lui qui, on lui a donné des rapports disant que tout était fait prêt, tout était bon. Et lui, il a confirmé ça. Il a pris l'avion, il a voyagé. L'atmosphère ne lui a pas permis de descendre. Et qu'est-ce qu'il allait faire? L'avion aussi, si vraiment c'était dans son bon état, croyez-vous vraiment que tout ceci allait arriver.
Non.
Oui, on ne fait pas. On nous distrait. On est en train de nous distraire.
Merci, Saoli. Voilà. Hein? Merci, Saoli. On a suivi un message interpellateur. Vous avez dit, cessez, s'il vous plaît. Cela veut dire, vous vous adressez directement aux dirigeants, mais vous avez posé la question, où est passée la compagnie nationale. Vraiment, on devait y arriver pour poser cette question à notre invité, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui pensent que si cette compagnie existe, on peut éviter ce genre de choses. Anitouri, c'est Paul qui est en ligne. Bonjour, Paul.
Oui, bonjour, monsieur.
On vous écoute rapidement parce qu'on sent déjà vers la fin de l'émission. Vous avez suivi l'écrit interpellateur de Saoli de Lubumbashi envers les dirigeants politiques par rapport aux mesures qu'il faut prendre et aussi la réhabilitation de la compagnie nationale. On vous écoute.
Tout à fait, mon président, il a 100% raison. Hein. Tout ce qu'on paye maintenant, c'est les conséquences des abus. Les conséquences des abus. Quand on abuse, on arrive toujours par là, ok? Quand on nomme un monsieur à la HFE, qui n'a aucune notion d'aviation, qui n'a aucune notion de terrain, qui n'a aucune notion de décollage, de l'approche de l'avion, eh bien, les conséquences sont là. Les abus, on le paye chaque cash ou à crédit. Et chaque fois que le dit, c'est toujours malheureux parce qu'on sait à quel taux de payer. Ok? Et l'échec, c'est l'occasion d'apprendre. Il faut accepter ça. Dans un pays, quand on nomme mal, on fait du tort à l'ensemble. On a nommé les gens par sentiment parce qu'il est mis à un proche de tel ou tel à la gestion civile. C'est malheureux et c'est dommage. Tout ce que le commandant Ilunga dit est à 120% vrai.
Merci. Merci.
On nomme mal, on fait du tort à l'ensemble du pays.
Merci beaucoup, Paul. Vous êtes à Nitouri. On termine cette émission avec ce message. Il y a Nielio qui nous a écrit ceci. Moi, je dirais seulement que pour améliorer le secteur des transports aériens, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités tout en remettant sur les pieds son agence, car avec, bon, en fait, il veut parler de la relance de la compagnie nationale. Si vous revoyez l'histoire des transports aériens, vous ne trouverez nulle part où on vous dira qu'il y a Air Zaïre, Air Congo, ou là qui avait connu de crash. Papingo de Lubumbashi dit ceci. La meilleure façon de faire disparaître un dossier, c'est de créer une commission d'enquête sur les quatre crashs survenus sur le sol congolais, aucune suite n'a été donnée en dépit de la découverte des boîtes noires. Et on nous laisse entendre que les enregistrements de l'aéroport de Kisangani ont déjà disparu. On vérifie toutes ces sources. Bertrand de Bruxelles dit ceci. Ma réaction est qu'il faut éviter qu'il n'y ait plus la répétition de tels crashs en RDC. Primo, il faut expertiser ces avions minutieusement. Secondo, il faut le balisage des grands aéroports, tant nationaux qu'internationaux, puisque sans cela, des accidents similaires reviendront. Les moyens sont là. Taxe GoPass, Tierso, placer des personnels qualifiés autour de contrôle. Jenny, qui nous écrit des Canadiens de la Souche Centrale, dit ceci, mes condoléances aux proches des disparus. L'origine des crashs est multifactorielle et d'elles dépendront de solutions. Que les responsables tant des sociétés d'aviation que des différents services de l'État cherchent les ressources. Est-ce l'incompétence de l'équipage? Est-ce la RVA qui n'arrive pas à bien remplir ses tâches? Est-ce le surpoids qu'ils cherchent ce qu'ils disent, le boîte noire, et mettent sur pied des solutions qu'ils respecteront avec rigueur? On termine avec vous, Denis, qui nous écrit de Kananga. On revient à vous, commandant Idelson Silunga. On entend de terminer cette émission. On a suivi les cris des trois derniers auditeurs, on peut dire, c'est ce qu'on peut appeler NSOS, parce qu'il y a d'abord ce problème de la compagnie aérienne où vous y travaillez. Qu'est-ce que cela est devenu le lac aujourd'hui? Et l'amélioration de la sécurité peut aussi passer par la relance. Les uns pensent qu'il faut relancer, les autres pensent qu'il faut créer une nouvelle compagnie aérienne. Dans trois minutes pour terminer cette émission.
Merci beaucoup. Hein. La compagnie aérienne, effectivement, elle est là. J'y suis. Je dois seulement dire que le gouvernement, hein, c'est elle qui a créé, disons, cette compagnie nationale. C'est une compagnie des enfants congolais, pour des Congolais, pour le transport des Congolais et de leurs marchandises. Le gouvernement a décidé à ce moment-là là, de mettre à la disposition de la compagnie nationale les moyens matériels, financiers et humains nécessaires. Et la compagnie nationale a tout fait maintenant pour mettre le personnel à un très haut niveau. Et c'est le même gouvernement qui a créé aussi la RVA. La RVA, pourquoi? Pour pouvoir recevoir, bien sûr, les avions sur son territoire. Le gouvernement a mis les moyens pour que son territoire soit sécurisée par des pistes convenables, des aides à la navigation convenables. Elle a donné le moyen et même le personnel devait être un personnel à un très haut niveau. C'est le même gouvernement qui, en principe, a dans son sillage l'autorité de l'aviation civile, à qui il a demandé de contrôler, non seulement pour punir, mais pour prévenir tous les incidents et tous les accidents. Il faut donc des hommes qu'il faut. La compagnie nationale, je reviens à ce que je disais au début, la compagnie nationale est une compagnie qui doit absolument être remise en marche, parce que c'est elle qui, en principe, aujourd'hui, possède les compétences voulues. Parce qu'elle a d'abord, comme j'ai toujours mis l'accent sur l'homme, elle a vraiment l'homme. Les compagnies privées ont puisé le personnel compétent chez l'AC. Malheureusement, quand ils sont allés dans les compagnies privées, nous avons constaté qu'ils n'ont pas travaillé comme ils devaient travailler dans la compagnie nationale, parce qu'ils ont trouvé un autre esprit ces compagnies privées. Et ils devaient suivre cet esprit-là. Et c'est ce qui est malheureux.
Voilà.
S'ils le faisaient comme ils le faisaient dans la compagnie nationale, on n'arriverait pas à cela. Donc il faut que le gouvernement absolument remette en marche l'existence de cette compagnie, qu'il puisse la raviver, que cette compagnie nationale puisse absolument... D'ailleurs, il y a l'administration des affaires techniques de l'AC qui avait fait un répertoire,
quelque sorte de vos terminaux.
Oui, qui a fait vraiment une allocution extrêmement mélodieuse là-dessus. C'était une autocritique très très valable. Mais il a tout dit.
Voilà.
On a qu'à se référer à cela. Et bien, je crois que.
Merci beaucoup, commandant Ildefonso Ilunga. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le premier pilote congolais et pilote aux lignes aériennes congolaises. Merci tout. On reste autour de l'homme qui doit être au centre. C'est la conclusion vraiment. Bien vous écouter dans cette émission. On se retrouve demain mardi à 11h30. Nous allons parler de l'agriculture. Ça fait près de 10 ans que le gouvernement national a distribué des tracteurs aux provinces pour la modernisation de l'agriculture. À ce jour, quelle est la situation de la production agricole dans votre milieu? On se retrouve demain pour en parler. Nous disons merci à Titi Mpoutou, Ingrid Baimba pour la réalisation de cette émission mise en onde par Eric Diakala. Nicole Ndiakar l'a supervisé. Au revoir à tous.